Chers amis abonnés, bonjour. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve en parfaite forme physique et puis morale, parce que nous en avons vraiment énormément besoin en ce moment. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau document podcast et non vidéo, parce que ce document ne nécessite aucune animation vidéo. Alors donc le podcast, disons, ça vous offre aussi une grande souplesse de pouvoir l'écouter sur tous les supports numériques. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le samedi 25 février, qui est la date d'enregistrement de ce document vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la future entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Ça va être un événement très très important, puisque Pluton va rester dans le signe du Verseau durant 19 ans, ce qui est quand même considérable. J'ai donc songé à vous faire part un petit peu de mon regard sur ce futur transit de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, avant tout, je tiens à vous préciser que cette intervention est une forme, comment pourrais-je vous dire, une forme de réflexion flottante, en vrac, sur les incidences, les effets de ce futur transit. Ce ne sont donc là que des réflexions personnelles, jetées de ci de là, portées par le symbole et sans retenue aucune. D'où aussi la longueur de ce document. Alors, je dirais que le côté numérique vous offre une grande souplesse, parce que vous pouvez arrêter l'écoute à tout instant et la reprendre à la minute et la seconde, là où vous l'avez interrompu. Voilà. Alors, si on remonte dans le temps, la date la plus proche de l'entrée de Pluton en Verseau, il faut remonter au 2 décembre 1778. Autrement dit, la fin du XVIIIe siècle. À plus de 2 siècles d'écart, j'ai pris la décision de ne pas me replonger dans ces années, car j'estime que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et j'ai donc préféré opter pour l'hypothétique et le vent de l'éventuel, c'est-à-dire essayer de vous donner ma vision de la manière dont va évoluer ce Pluton dans le signe du Verseau. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir au mythe. C'est très important de comprendre le mythe qui est lié à chaque planète, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'astrologie part du postulat que le mythe participe de notre réalité. Et c'est ce qui fait de nous des êtres symboliques. Nous sommes donc animés par le mythe, et ce mythe participe de notre réalité parce qu'il nous orchestre dans nos actions de manière, on va dire, inconsciente. Alors, qu'est-ce que le mythe nous raconte ? Enfin, qu'est-ce que la mythologie, au fond, nous raconte ? Alors, je vais essayer d'être très très bref. Et alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous demande de bien vouloir m'excuser, parce que je vais reprendre des choses que vous avez certainement déjà lues ou entendues de ma part, mais je ne vais quand même pas avoir la prétention de réécrire les mythes. Donc, je vais me répéter, veuillez m'en excuser. Alors, lorsque les trois fils de Saturne, Jupiter, Neptune et Pluton, se sont partagés l'univers, la part du gâteau, si j'ose dire, le ciel fut confié à Jupiter, à Zeus, l'océan à Poséidon, Neptune, et le monde souterrain, le Tartare, à Hadès, Pluton. Pluton devint ainsi le gardien du royaume des morts, du monde invisible, le tout renforcé par un casque en peau de chien que lui donnèrent les cyclopes lors de la guerre contre les titans. Ce masque, lui conférant le don d'invisibilité, exprime de fait les multiples strates des forces obscures, autrement dit des puissances de l'inconscient. C'est très important d'avoir en tête cette double invisibilité de Pluton, vous savez, pour comprendre vraiment la mécanique de Pluton. Il règne dans le monde des ténèbres, ce monde invisible, parce que Pluton est la planète la plus lointaine de notre système solaire, elle est sur la ceinture de Kuiper, et à l'intérieur de ce monde de ténèbres, ce monde invisible à l'œil nu, Pluton a le pouvoir de s'y rendre invisible. Vous voyez un petit peu la double profondeur, la double focale de ce Pluton. Cette invisibilité, donc, pleinement assumée dans le mythe, s'est matérialisée dans le champ du réel par une désincarnation, du fait que les hommes ne vouèrent aucun culte à Pluton, allant jusqu'à user même d'euphémisme lorsqu'ils devaient l'évoquer. Ce non-dit a engendré un renforcement du refoulé par le déni de lui faire face dans le jeu sacré du rite, lequel a pour fonction de maintenir le lien entre l'en haut et l'en bas, c'est-à-dire harmoniser les puissances rationnelles et irrationnelles de la psyché. Par ce mécanisme de négation et de refoulement, les puissances de Thanatos, les puissances de mort, symbolisées par Pluton donc, les puissances de Thanatos, gardèrent intact leur état primitif, se mettant du coup en parfaite analogie avec le mythe de Pluton. De là, ces éruptions morbides, ces réactions destructrices incontrôlées, manifestations d'un irrationnel négatif, car non intégré dans le champ du conscient, d'aucuns diraient non conscientisé. De là aussi, ces adhésions aveugles aux thèses apocalyptiques les plus insensées, et sur ce point, la psyché est sans limite quand il s'agit d'orchestrer la disparition de notre propre espèce. On en a eu des exemples assez savoureux par le passé, hein. Rappelez-vous de la fameuse éclipse de 1999 où on annonçait la fin du monde, la sonde Mir allait se décrocher et venir s'écraser sur Paris, vous vous souvenez de ce délire. Bref, je ferme la parenthèse. Et dernièrement, jusqu'au calendrier Maya, hein, souvenez-vous aussi ce grand délire qui avait eu lieu parce que le calendrier Maya arrivait à la fin. Bah oui, bah nous, chaque année, on arrive en fin de calendrier et on part vers à nouveau, enfin bon. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est tellement agaçant tout ça. Mais passons, la psyché a besoin de ça certainement pour peut-être renaître de ses propres cendres intérieures. Alors on a souvent aussi l'habitude d'associer Pluton au mythe de Faust, enfin non pas au mythe, mais tout au moins au docteur Faust. Je ne sais si vous avez lu ce très très beau texte de Goethe qui s'appelle Faust. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est une très belle leçon qui vous permet de comprendre un peu également Pluton, symboliquement parlant. Alors l'état actuel des connaissances scientifiques et des possibles qu'elles augurent, le mythe du golem, à mon avis, peut aussi nous apporter un éclairage intéressant. Comme tous les mythes, celui du golem a différentes approches et interprétations, bien sûr. Nous nous en tiendrons à celle de la tradition kabbaliste. Conçu à partir de l'argile rouge, le golem a au commencement la taille d'un enfant. Le kabbaliste inscrit sur le front du golem le mot Emet, qui signifie en hébreu « vérité ». Le golem devint aussitôt doué de mouvement, de sensibilité de vie et se meut en esclave docile. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sa croissance est spectaculaire et illimitée. Il prend de plus en plus de force et d'autonomie. La seule solution pour stopper cette croissance susceptible de le rendre incontrôlable et par conséquent dangereux pour l'espèce humaine est de retirer le Aleph, la première lettre du mot Emet, pour obtenir le mot Met qui signifie mort en hébreu et ainsi anéantir la créature. Alors que faut-il comprendre dans ce mythe ? Alors, je vais vous donner mon approche, hein, mon explication qui, bien entendu, n'engage que moi. Eh bien, je vois que l'homme veut, a toujours cherché à se substituer à Dieu, en créant lui-même la vie, cherchant ainsi à destituer de sa fonction son père, Saturne, car n'oubliez jamais que Saturne est le père de Pluton. Donc, chercher à destituer de sa fonction son père, Saturne, le maître du temps et du destin. Mais cette créature, donc le golem, réengendre à nouveau le mythe par le complexe du pouvoir, de la rivalité et ainsi de l'anéantissement, en devenant à son tour une menace pour l'homme, son créateur. Donc, une seule solution s'offre à l'homme afin de préserver son espèce, détruire son prolongement, sa propre créature qui lui octroyait une place équivalente à celle de Dieu, faisant de la sorte appel aux puissants expiatoires de Pluton, gardien des grands mystères dans la tradition. Autrement dit, la conjuration du fatum, de la fatalité du destin par la mort, pour ne pas sombrer dans les ténèbres de plomb. Alors, en plaquant le mythe sur le champ du réel, comment envisager maintenant, interpréter la future entrée de Pluton en Verseau ? Pluton va faire ses premières foulées en Verseau à partir du 23 mars 2023 et va y rester durant 3 mois. Puis, après différentes rétrogradations, il y entrera définitivement le 19 novembre 2024 et le quittera le 9 mars 2043 pour entrer ensuite dans le signe des Poissons. 19 ans, une adolescence qui entame sa majorité, 19 années de présence de Pluton dans le signe des Verseaux. Ce n'est quand même pas mal. Donc, je dis adolescence, pourquoi ? Parce que Uranus, qui aura maîtrise sur Pluton, hein, parce que Pluton sera dans le signe du Verseau, donc Uranus, lui, sera dans le signe des Gémeaux à partir de l'année 2026, qui correspondra avec l'entrée de Pluton en Verseau. Hein. Et le signe des Gémeaux, c'est le signe de l'éternelle adolescence. Et Uranus entrera en Gémeaux le 26 avril 2026 jusqu'au 22 mai 2033, où il entrera après définitivement dans le signe du Cancer. Et il ne faut jamais perdre de vue le rôle fondamental des maîtrises sans lesquelles la dynamique astrologique n'existerait pas. L'interaction s'établit par le jeu des maîtrises, sans oublier les aspects, bien entendu, je n'insisterai jamais assez sur ce point. Donc, Pluton, si on prend le temps de bien le comprendre, c'est en fait notre part d'ombre dans laquelle se trament des forces non maîtrisées et qui s'orchestrent d'elles-mêmes selon le rythme de puissance pulsionnelle. Nous sommes le jouet de ces pulsions tant que nous n'avons pas pris conscience de celles-ci, de leurs forces et de leurs implications dans notre vie. Pluton, Hadès, règne en maître dans l'informulé, et plus l'obscur s'en ténèbre, plus sa puissance se développe, croît. D'où sa symbolique liée à l'inconscient et de l'importance de la connaissance de soi pour parvenir au mieux à élucider cette part qui se joue de la lumière. En effet, cette dernière, la lumière, symboliquement se rattache au feu, à tout ce qui éclaire, réchauffe et brûle. Ainsi, Pluton en Verseau sera sous la gouverne d'Uranus, Uranos, le dieu du ciel, symboliquement lié au feu, à l'élancement, à l'ascension, à l'éruption, à l'inconnu, la découverte. Autant dire que Pluton ne sera pas dans son espace, il sera peu en affinité avec sa nature profonde, qui est celle du secret et de l'invisibilité bien enfouie dans les entrailles de la Terre. Mais ne perdons jamais de vue que Pluton, c'est aussi les puissances de régénération indispensables à toute évolution. Tout ce qui ne se régénère pas dégénère, a dit Edgar Morin, né sous une conjonction Soleil, Mercure, Mars, Pluton en Cancer. On pourrait d'ailleurs, veuillez m'excuser, j'ai un petit chat qui vient de se loger dans ma gorge, on pourrait presque faire un parallèle avec la matière première des alchimistes, à partir de laquelle peut s'opérer la transmutation, c'est-à-dire passer du vil au précieux. Alors maintenant, on va essayer un peu de sectoriser, passez-moi ce terme barbare, je ne sais même pas si le mot sectoriser existe, mais je vais essayer un petit peu de développer ma pensée dans des secteurs assez précis. Et là, je vais un peu m'attarder sur la science, la médecine. Alors, je pense, selon moi, que le domaine médical va connaître des avancées remarquables. Pluton sera au service, aux ordres, de la haute technologie propre à Uranus. Il devra s'y adapter sans pour autant abandonner ce qui lui est propre, à savoir la mort et les lourdes pathologies. Par exemple, pour illustrer ma pensée, la recherche concernant le cancer va progresser et peut-être arrivera-t-elle à mieux cerner, isoler la cellule cancéreuse, mieux en comprendre les mécanismes profonds qui demeurent encore mystérieux en l'état actuel des connaissances. Le multifactoriel, vous savez, qui dit tout et rien à la fois. Hein, quand vous posez la question à un oncologue, quelles sont les raisons du cancer ? Moi, je me souviens pour mon cas personnel, vous m'excusez de faire intervenir mon petit égo, mais je me souviens quand je me suis retrouvé devant l'oncologue, après qu'il m'ait annoncé un petit peu à quelle sauce j'allais être traité, je lui ai dit « mais quelle est la raison pour laquelle j'ai... » Et il m'a répondu « écoutez, c'est multifactoriel ». Voilà, il faut qu'on s'arrange avec ça et qu'on se débrouille avec ça. Et je ne jette pas la pierre à l'oncologue qui m'a dit ça, parce que je pense qu'effectivement, ils sont un petit peu perdus devant les différentes raisons, causes qui peuvent déclencher le cancer. Et vous voyez, on est bien confronté à l'aspect mystérieux et insondable et qui nous rapproche de la symbolique de Pluton. Donc, disais-je, de là, il va certainement y avoir des traitements qui vont être mieux ciblés, donc beaucoup plus efficaces. Et ces découvertes-là pourraient même avoir des répercussions sur le sida et toutes les maladies génétiques, lesquelles relèvent aussi du registre symbolique de Pluton. Et disons que les pathologies sournoises, au développement sourd, seront sous le contrôle d'Uranus, dont la devise est de mettre en lumière, aller de l'avant, se libérer de ce qui entrave. Sans oublier également l'évolution fulgurante de la chirurgie. Opération de plus en plus précise, faite à distance à l'aide d'une robotique de pointe. Radiographie de plus en plus élaborée, scanner, IRM, décryptée à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle plus rapides et précis que l'œil humain. Mais le diagnostic et le traitement resteront le terrain de la part humaine. Autrement dit, la robotique dans son exercice positif, car il y aura aussi son pendant très critique, mais ça c'est un autre sujet. Alors, j'aimerais que l'on s'arrête aussi quand même un instant sur Neptune, qui sera en bélier et au sextile de Pluton et d'Uranus. Vous savez, il ne faut jamais traiter une planète isolée de l'ensemble des autres planètes. Hein, parce que sinon, si on tient compte uniquement de la planète isolée dans le signe, pour essayer de tracer des prospectives, on va irrémédiablement se planter. Déjà que, même en tenant compte de tout, il y a une part d'inconnu. Et comme son nom l'indique, l'inconnu, c'est ce qui nous est inconnu et qui peut venir changer tout à fait l'ordre des choses. Alors il faut quand même essayer de se donner le maximum de moyens et de chances pour essayer de cerner au mieux ce qui peut advenir. Donc Pluton sera également au sextile de Neptune, puisqu'il sera dans le signe du bélier. Alors le bélier symbolise la tête. Les soins liés aux maladies dites dégénératives, cognitives, feront sans doute un bond en avant très très singulier et très significatif. Peut-on espérer des traitements pour guérir ou à tout le moins atténuer de façon sensible des maladies telles que Parkinson, Alzheimer ? Neptune symbolisant ce monde intérieur, océanique, sans aucune prise sur la matière, le réel, ce monde opaque du repli sur soi dans lequel se réfugient les êtres touchés par ces nébuleuses et déliquescentes maladies. Moi, je veux y croire. Je pense que durant toute la traversée de Neptune en bélier, avec le soutien de Pluton, durant un bon moment, ces planètes vont être en sextile, ben moi je crois qu'il va y avoir donc là des avancées plutôt précieuses concernant ces maladies qui sont en pleine explosion aussi. Alors pour conclure sur ce thème, on ne peut passer sous silence l'intelligence artificielle et le transhumanisme, dont l'objectif est de s'attaquer à la vieillesse, la maladie et la mort pour atteindre l'immortalité. Projet fou de savants fous, et nous sommes bien là dans le mythe du golem ou du docteur Frankenstein. L'hybridation de l'homme et du robot, ou l'homme créant sa propre créature, également, parce que quelque part, l'hybridation de l'homme et du robot, le cyborg, c'est un petit peu ça dans l'esprit. Et puis ce projet fou d'atteindre l'immortalité ou de reculer de plus en plus le vieillissement. Donc on est là vraiment dans la symbolique de Pluton dans le signe du Verseau. Donc, nul doute que les 19 années de la traversée de Pluton en Verseau vont nous réserver bien des surprises dans le domaine scientifique et médical. Alors, restons aussi toujours dans l'être et allons faire un petit tour du côté de la psyché. Le monde de l'inconscient et de tout ce qui se rattache à la psyché on va devoir aussi le suivre de près, à mon avis. Rendez-vous compte, à l'heure où certains chercheurs en neurosciences parlent de la conscience délocalisée, entendez bien, la conscience délocalisée, c'est-à-dire que le siège de la conscience ne serait pas le cerveau, mais ailleurs, en marge, dans un cloud, le nuage, nous sommes bien là dans un rapport Uranus-Verseau-Pluton. Ainsi, de l'inconscient, nous basculons vers le conscient. Parce que, évidemment, cette notion de conscience délocalisée, c'est très intéressant à étudier, parce que ça pourrait expliquer tous les phénomènes de télépathie, les phénomènes de voyance, tous ces phénomènes-là qu'on appelle à l'heure actuelle paranormaux. Parce que cette conscience délocalisée siégerait dans un espace hors du cerveau dans lequel nous aurions tous accès, pour l'instant, de façon inconsciente. Vous voyez, cette idée-là est très intéressante quand même à étudier. Et il y a des chercheurs très très sérieux qui se penchent sur cette question. Ainsi, de l'inconscient, nous basculons vers le conscient. En effet, en réalité, qu'est-ce que le conscient et être conscient ? Ce n'est pas un hasard si la méditation pleine conscience a connu un essor considérable. Et oui, si l'inconscient a fait l'objet de longues et profondes investigations depuis l'avènement de la psychanalyse, le conscient, quant à lui, est resté totalement en marge, comme si ça allait de soi. Donc, on peut penser que les théories psychanalytiques devront vraisemblablement être revues de fond en comble. Et oui, comme je me le plais à dire et à répéter très souvent, l'homme du XXIe siècle n'a plus rien à voir avec celui du XIXe. Quel complexe d'Œdipe dans les familles homoparentales, par exemple. Vous voyez, à ce propos, d'ailleurs, Sigmund Freud est né sous une conjonction Jupiter-Neptune-Poisson. Or, cette conjonction dans le même signe s'est reformée en 2022, et en conjonction de celle de Freud. Peut-on voir, donc, dans le retour de ce cycle, qui remontait à 1856, une refonte totale des théories psychanalytiques? Un nouvel élan qui prendrait racine à partir d'une revisitation des fondements mêmes de la psychanalyse. Eh bien, l'avenir nous le dira. Mais j'ai entendu dire que dans le milieu psychanalytique et le milieu freudien, il y a actuellement une très très grande, je dirais, critique qui est faite des théories de Freud. Hein, et certains psychanalystes vont même jusqu'à dire que Freud a biaisé ses résultats, a menti. Bref, la personnalité de Freud elle-même est considérablement attaquée par certains psychanalystes. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur de la communauté psychanalytique. Alors, j'espère que vous arrivez à me suivre dans mes raisonnements. Maintenant, si l'on part du principe qu'Uranus serait exalté en scorpion, le fait que Pluton soit sous sa gouverne renforcerait les valeurs intrinsèques de Pluton. Arriverons-nous donc à une forme de matérialisme mystique ou à une mystique matérialiste? Une confluence de la science et de la spiritualité, de l'immanence et de la transcendance. Personnellement, ça m'apparaît inconcevable, je vous le dis franchement, je vous donne ma position. Une mystique matérialiste ou un matérialisme mystique, ça m'apparaît inconcevable pour moi. Également l'immanence et la transcendance, ce sont tellement des notions tellement différentes. Mais bon, allez savoir, la science, par les outils qui lui sont propres, déboucherait donc de fait et viendrait corroborer les grands textes sacrés. Et à ce sujet, je vous renvoie à un livre qui a été publié, « La science, Dieu et l'épreuve ». L'épreuve dans le sens des preuves à l'appui, et non pas l'épreuve et l'apostrophe. C'est un livre qui avère la théorie du Big Bang. Et si la théorie du Big Bang est avérée, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là avant et qui a tout orchestré. Donc ça soulève la question du « qui était là avant ?» Et quelle est cette forme d'intelligence? C'est un débat passionnant, moi, je trouve. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir de ce côté-ci, qui est vraiment très, très intéressant à suivre. C'est passionnant. Donc, les différents domaines de connaissances ne pourront rester isolés les uns des autres. C'est là où je veux en venir. Camper sur des certitudes sclérosantes, chacun dans son petit périmètre à soi, avec la conviction, vous savez, de détenir la vérité. Ça ne sera plus possible dans le futur, ça. Ça ne sera plus tenable. C'est-à-dire que le surmoi va-t-il se mettre en veille pour laisser le champ libre vers le soi, si l'on peut me permettre une telle formulation et un tel raccourci, donc l'astrologie, l'art d'Uranie, pourrait ainsi épouser, voire peut-être se fondre dans un courant large et trouverait sa parfaite légitimité. Le lien entre le macrocosme et le microcosme, en fait. D'ailleurs, n'entendons-nous pas fréquemment de la bouche de certains journalistes et commentateurs cette expression « les planètes étaient alignées » pour signifier que tout était parfaitement en place, synchrone pour que l'événement s'avère. Comme si, peu à peu, le langage astrologique se frayait un chemin dans la perception et l'analyse de la réalité. Ils sont comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. Donc, l'approche de l'homme dans sa globalité ne pourra plus en rester au stade des connaissances actuelles. Nous allons entrer dans un nouveau paradigme qui nécessitera de procéder à une critique et autre critique du champ de nos savoirs respectifs. L'homme du XXIe siècle ne vit pas Saturne de la même façon que l'homme du XVIIIe, voire du XIXe. Le rapport au temps, à la durée, a changé de nos jours. Le grand slogan de nos jours se résume à « toujours plus et plus vite », avidité et impatience, le Saturne de la frustration. Il faudra réussir à dépasser ce stade pour accéder à l'expression supérieure de Saturne, sagesse, profondeur, connaissance, la pleine conscience. Ouvrant ainsi l'accès aux trans-saturniennes, dont leur expression la plus haute, Uranus l'éveil, Neptune la communion des âmes, Pluton l'alchimie, la pierre philosophale, faite homme. Certes, ce ne sera pas dès 2026 que nous y accéderons, mais rien n'empêche d'y tendre, sinon c'est à désespérer de l'espèce humaine. Je pense. Alors, maintenant, je vais changer totalement de registre et on va passer au domaine de la communication. Et oui, le domaine de la communication va être très très important et il est difficile d'éviter ce secteur, le mot « com » est devenu incontournable. Nous vivons l'époque où les chargés de communication occupent une fonction aussi importante, si ce n'est plus, que les dirigeants. D'ailleurs, ça amène à se demander qui dirige en réalité. Alors, pour rester dans le cadre astrologique, procédons par méthode. Alors, suivez-moi bien. Uranus, qui aura maîtrise sur Pluton, car celui-ci sera dans le signe des... Alors, pardon, je reformule ma pensée parce que là, je vais trop vite. Uranus, qui aura maîtrise sur Pluton, sera dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est régi par Mercure, lequel symbolise la mobilité physique et intellectuelle, les liens, les échanges, le souffle, la jeunesse, le verbe, le langage et les métiers liés à la communication. Uranus sera au trigone de Pluton. Par conséquent, le monde des multimédias va vivre une révolution. Nos moyens actuels de communication, Internet, réseaux sociaux, deviendront obsolètes pour laisser place à de nouveaux outils virtuels, plus légers, plus rapides, plus fluides pour transporter l'information, tout ce qui relève de l'élément air propre aux Gémeaux. Uranus synthétise. Nous assisterons à l'association du maximum d'informations concentrées dans un minimum d'espace. L'ensemble totalement dématérialisé, facilement transportable, logé dans l'espace, les airs, là-haut, le ciel, Uranos, le cloud, le fameux nuage, mais vous me direz, c'est déjà le cas. C'est-à-dire la fin progressive des logiciels pour une totale dématérialisation sur le web. Également un autre secteur, le secteur de l'automobile. Uranus, sous la gouverne de Mercure, va vivre un essor de taille par le développement exponentiel certainement de la voiture électrique, voire autonome, c'est-à-dire la voiture sans chauffeur. Et oui, Uranus symbolise l'autonomie. De là à prétendre, par voie d'extension, qu'il y aurait une nouvelle conquête spatiale, Uranus Gémeaux, dans une lutte de territoire, Neptune Bélier, à savoir la mise en place de frontières célestes après les terrestres et pourquoi pas d'autoroutes célestes, il n'y a pas loin. Une sorte de Star Wars dans un autre registre. Oui, je sais bien, vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites, là, Fabrice, il est barré en pleine science-fiction, mais je vous prie de croire que j'ai la conviction profonde de ce que je vous dis. J'en suis intimement convaincu. Alors, je vais quand même revenir sur Terre. Et on va parler de la Terre, de Gaïa, hein, dans la mythologie Gaïa. Parce que Pluton, c'est aussi la pollution, les déchets. Alors, comment se débarrasser des déchets que cette révolution technologique entraînera inexorablement ? Alors imaginons un petit malin qui trouverait le moyen de tout stocker non plus dans les entrailles de la Terre, le Tartare, cher à Pluton, ou dans les profondeurs de l'océan, Neptune, mais dans l'espace, Uranus. Toutes ces explorations sur Mars, on peut se demander à quelle fin. tout est possible quand on pousse la porte de la demeure d'Utopie. Ou alors, c'est peut-être l'inverse. On va stocker toutes les saloperies sur Terre et on cherchera à développer une autre vie là-haut, sur une autre planète. Mais de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va s'orchestrer de ce genre. L'écologie aussi, qui sera symbolisée par le futur transit de Neptune en Bélier. Sera-t-elle martiale, despotique, implacable? C'est-à-dire une quête de pureté pouvant conduire à des positions extrêmes, totalitaires, pour le bien de chacun et la préservation de Mère Nature, bien entendu. Gare à ce risque de basculement. On peut aussi lire dans ce Neptune Bélier un impératif religieux où la parole dite révélée serait la seule et unique à suivre. La conjugaison de Neptune et de Mars, par sa maîtrise, réclamera une très grande attention pour ne pas verser dans des courants extrémistes soi-disant spirituels. D'autant plus que Pluton sera au sextile. Et Pluton, ça peut être la terreur qui s'installe. Sur un autre plan, ce Neptune Poséidon, dieu de l'océan, l'eau deviendra-t-elle un enjeu à la fois stratégique et économique? Assisterons-nous à une mainmise de plus en plus forte sur l'eau et à un affrontement des puissances pour en posséder la propriété? Sachant que le cycle Saturne-Pluton se reformera en poisson en 2054, c'est-à-dire au mi-temps de ce siècle. À mon avis, quand on arrivera dans cette zone-là, il peut y avoir un phénomène très inquiétant qui peut se propager à l'échelle planétaire. Saturne-Pluton, deux planètes sombres dans le signe des poissons, attention à ce que ça va donner. Mais nous n'y sommes pas encore. Le Bélier, signe cardinal, marque l'élan et le mythe de la toison d'or. Quelle sera cette nouvelle toison d'or vers laquelle partira l'humanité, symbolisée par Neptune? Je vous le rappelle. Durant tout le transit de Neptune en Bélier, Neptune fera son entrée le 30 mars 2025 et en sortira le 21 mai 2038 pour entrer en Taureau. Assisterons-nous à une prise de conscience aiguë de la nécessité absolue de sauver la Terre pour éviter une catastrophe épouvantable? En effet, à partir de 2038, Neptune passera en Taureau, signe qui est lié à la nature, la terre nourricière, l'agriculture, l'alimentation, bref, tout ce qui a trait à l'oralité en astropsychanalyse. Neptune Taureau pourrait être la promesse de l'entrée dans une ère nouvelle où la nature serait enfin préservée, choyée. Osons avancer la formulation « la nature spiritualisée ». La foi, dit-on, déplace les montagnes. Donc, en attendant, eh bien écoutez, rien ne nous interdit de nous mettre en route vers les montagnes pour pouvoir envisager de les déplacer s'il y a lieu. Bref. Maintenant, passons à un autre registre aussi, la finance. Eh oui, Pluton, c'est aussi la plutocratie. Ce monde de la finance qui a étendu son pouvoir sur toute la planète, telle une pieuvre, silencieusement, sournoisement, réduit à une poignée d'initiés, mais non dans l'acception traditionnelle du terme. Par l'entremise d'Uranus, on peut s'attendre à ce qu'il procède de lui-même à sa propre révolution, s'adapte très rapidement aux nouveautés technologiques pour maintenir sa puissance. Après le passage d'Uranus en Taureau, qui aura entre autres dématérialisé l'argent pour passer au tout numérique, la crypto-monnaie, le passage en Gémeaux va finaliser ce système et créer les nouvelles autoroutes virtuelles de la finance. Comment pourrait-il en aller autrement, puisque c'est la haute finance qui alimente ses recherches tout de même? Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. D'ailleurs, le terme capitalisme, à mon avis, est devenu complètement désuet, inapproprié pour qualifier cette oligarchie planétaire. Alors, pour essayer quand même d'incliner vers une vision tout de même positive, ce pouvoir de la finance participera-t-il, bon an, mal an, au progrès collectif ? Vraisemblablement, car il n'aura pas d'autre choix pour maintenir un équilibre nécessaire à sa propre stabilité, ce qui entrerait en résonance avec Pluton Verseau et les valeurs de fraternité de ce dernier. Bref, l'éternelle alternance en donne d'une main et l'en reprend de l'autre. Le revenu universel sera certainement au centre des débats politiques à venir. Cela apparaîtra comme une avancée sociale positive, humaine, mais attention aux limites collatérales qui en découleront. Là aussi, il ne faudra pas se faire trop d'illusions. S'attendre, comme certains le prétendent, à ce que ce monde s'effondre, j'entends ce monde de la finance, à ce que ce monde s'effondre, est une douce illusion, à mon avis, car c'est ce monde-là qui précisément orchestre l'effondrement. Ensuite, il ne lui restera plus qu'à composer une nouvelle partition et orchestration. Parmi, maintenant, les futurs chefs d'orchestre, espérons que certains aient une oreille plus fine, plus sensible, réceptive et réussissent à maintenir, renforcer le lien humain. Je pense qu'il en sera vraisemblablement ainsi, ils n'auront pas le choix de toute façon. Alors maintenant, pour conclure cette intervention, la liberté. Eh oui, comment pourrais-je ne pas conclure mon intervention par la liberté et la liberté chérie. Quel visage aura la liberté dans ce nouveau paradigme ? Verseau-Uranus, fraternité, Verseau, liberté-Uranus. Avec Pluton comme locataire qui imposera ses dictates, verrons-nous la liberté individuelle totalement sous contrôle pour pallier tout risque de contagion, de contestation, voire de révolution sociale. Limitant ainsi le champ des libertés individuelles par une emprise sécuritaire absolue, c'est-à-dire le monde des libertés imposées. Il y a très longtemps que j'avais parlé de ce monde des libertés imposées, très longtemps, et je me rappelle à l'époque, on me regardait avec un petit regard amusé en disant « il est en train de délirer ». Eh bien, voilà, moi je pense que nous allons vers ce monde des libertés imposées. Sur un autre plan, le risque de voir se développer la cybercriminalité, le cyberterrorisme, la cyberdélinquance, de la brutalité du passage de Pluton en Capricorne, la terreur, la menace s'infiltrerait via le paradigme de la haute technologie. Pluton sous la maîtrise d'Uranus, d'où par voie de conséquence le développement d'une cybersécurité qui, sous prétexte d'assurer notre protection, exercerait un contrôle permanent. Big Brother d'Orwell à la puissance supérieure. Cette hypothèse-là est loin d'être inenvisageable. Tout au moins, à mon avis, je pense que nous n'allons pas y couper. Donc, il faudra se montrer très attentif sur ce point. Une fraternité qui marcherait au pas. Neptune, la collectivité, sous la gouverne de Mars, donc belliqueuse, tranchante et impulsive et martiale. Une seule et unique ligne à suivre. N'oublions pas, comme je l'avais déjà mentionné dans un article précédent, la formation du cycle Saturne-Neptune le 24 juillet 2026 à 0 degré du Bélier. Ce cycle sombre, de basse tonalité, de suffocation, de resserrement symbolisant les laissés pour compte, les infortunés, qui par un sursaut de survie se révoltent. Ce n'est pas un hasard si ce cycle a ponctué le marxisme et la révolution d'octobre, la chute du mur de Berlin, et j'en passe. L'humanité vivra là un temps de transition fragile, névralgique. Mais Neptune, l'irrationnel, le rêve, et Saturne, le rationnel, la réalité, totalement opposés dans leur symbolique, peuvent aussi se compléter et s'apporter réciproquement leur part manquante. Là aussi, tout s'appuiera sur une prise de conscience. À noter également le conflit Ukraine-Russie, sans doute que nous arriverons là à une redistribution et à l'instauration d'un équilibre mondial. Et j'avais essayé de développer cela dans un article qui s'intitule « Chine et Russie ». Alors, je ne suis pas un spécialiste en géopolitique. Cet article m'avait donné beaucoup de mal. Et je vous indiquerai le lien dans la description de la vidéo en bas à gauche, hein, pour que vous puissiez vous y reporter et le lire. Je pense que nous arriverons à ce monde bipolaire ou multipolaire, comme le disent actuellement certains analystes, où d'un côté il y aura tout le bloc occidental et de l'autre côté la Chine, la Russie, le Pakistan. Et peut-être nous arriverons à une sorte de nouvelle guerre froide, différente de celle que nous avons connue par le passé. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça serait beaucoup trop compliqué. Et je vous renvoie à cet article et lisez-le et vous ferez votre propre opinion. Donc, la vigilance sera plus que nécessaire pour ne pas verser dans un monde aseptisé où rien ne devra dépasser, sortir du rang. L'uniformité de la pensée, du comportement pour le bien-être de tous. Ce monde de l'homme dit augmenté, mais aux limites plus que circonscrites. Le fameux rester connecté, désincarné. D'ailleurs, regardez le développement du travail à domicile, hein, le télétravail, comme on dit aujourd'hui, où les gens sont chez eux, isolés des uns des autres, qui est en train de se développer de plus en plus. Comme ça, les entreprises font des économies, ils n'ont plus besoin de bureaux. Le développement de la robotique également de plus en plus. Vous avez des endroits où il n'y a plus de caissière, plus du tout, plus rien. Bref, tout ce monde-là va se développer de plus en plus. Alors, je terminerai cet exposé par cet extrait de leçon inaugurale au Collège de France de Roland Barthes. Roland Barthes qui était né sous un soleil Mercure du Scorpion au trigone de Pluton en Cancer. Alors, c'est très intéressant de méditer sur ce petit passage que j'ai extrait. Début de citation. Si je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique. Je dois me jeter dans l'illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents et non de mon propre corps passé. Bref, périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. J'entreprends de me laisser porter par la force de toute vie vivante, l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait. Mais il en vient aussi un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Fin de citation. Là, on est vraiment au cœur d'une pensée très, très plutonienne. Et je la trouve extrêmement intéressante. Autrement dit, ne surtout pas s'installer dans des certitudes absolues. Parce que c'est à partir de là qu'on tombe dans des mécanismes de répétition et que l'on va de catastrophe en catastrophe. Alors maintenant, sur le plan individuel, eh bien, je ne vais pas rentrer dans une description de ce que ce transit de Pluton va donner en verson pour chacun d'entre nous. Alors, les plus concernés, évidemment, vont être les Verseaux, parce que pendant 19 ans, ils vont devoir cohabiter avec Pluton. Mais je ne vais pas me lancer dans un descriptif de ce qui pourrait se passer, parce que tout va dépendre pour nos chers amis Verseaux, de ce qu'ils auront mis dans leur part d'ombre, de leur réalité, de l'état de Pluton dans leur thème astrologique, et après des transits qu'il va former et des secteurs qu'il va parcourir. Quand je dis les secteurs, je veux dire les maisons. Donc à partir de là, il y a tout un canevas qui se dessine et on ne peut pas donc rentrer et donner un développement, je dirais, précis. Surtout que Pluton est une planète tellement complexe à manier. Alors évidemment, seront également concernés les lions, puisqu'on va être dans l'axe Verseau-Lion. Hein, donc Pluton va s'opposer au signe des lions et il fera aussi carré au taureau et au scorpion. Autrement dit, les quatre signes fixes vont devoir cohabiter avec ce futur transit de Pluton, partant quand même du fait que les plus concernés seront les Verseaux. Et également les personnes qui sont ascendants Verseaux seront concernées par ce transit de Pluton. Hein. Par exemple, tous ceux qui ont le Verseau dans les quatre angles du thème ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel, vont être particulièrement aussi concernés et sensibles à ce transit de Pluton. Mais il est manifestement évident qu'il y aura un avant et un après. Hein. Surtout lorsque Pluton transite des planètes, je dirais, intérieures, Soleil, Lune, Mercure, Vénus. Là, on a un retentissement beaucoup plus important que lorsqu'il transite des planètes plus lentes comme Jupiter ou Saturne. Et j'ai oublié Mars aussi, un transit de Pluton sur Mars est toujours à surveiller de très très près. Enfin voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que cette intervention vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et pour les nouveaux arrivés, les nouveaux venus, pardonnez-moi pour ce petit chat dans la gorge qui est très désagréable. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à mon site internet dont vous trouverez l'adresse dans le générique final. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère avoir été à peu près clair parce que c'est vrai que c'est très long. Et puis je vous dis à notre prochain rendez-vous et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.